Bon, une question qui paraît simple, mais qui est assez vertigineuse en fait, hein. La lumière, c'est quoi exactement? Une onde? Plutôt des particules? Ou autre chose?
C'est la grande question.
Voilà. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer un peu cette nature étrange, fascinante de la lumière. On va s'appuyer sur les idées de fondamentée diotique physique.
Mm-hmm.
L'objectif, c'est de rendre un peu plus clair certains aspects de la lumière qui sont pas toujours intuitifs, quoi.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, on s'y met? Décortiquons ça.
Allons-y.
Pour commencer, vraiment simple. On peut imaginer la lumière comme des lignes droites, des rayons lumineux qui voyagent tout droit.
Ah oui, le modèle des rayons.
C'est le plus intuitif. Ça explique quoi, concrètement?
Ça marche très bien pour des choses qu'on voit tous les jours. Par exemple, la réflexion.
Le reflet dans un miroir, ce genre de choses.
Exactement. Ça, c'est la réflexion. Et puis, il y a la réfraction.
La réfraction, ah oui, quand on met une paille dans un verre d'eau et elle a l'air cassée. C'est ça, la lumière qui dévie.
C'est tout à fait ça. Elle change de direction en passant d'un milieu à un autre, comme de l'air à l'eau. Et oui, il y a une règle précise pour ça.
Ah, laquelle?
C'est la loi de Snell. En gros, elle nous dit comment la lumière est déviée. Ça dépend des propriétés des milieux, ce qu'on appelle leur indice de réfraction.
L'indice de réfraction, d'accord. Plus il est élevé, plus ça dévie, c'est ça?
En quelque sorte, oui. Plus l'indice est élevé, plus la lumière ralentit dans ce milieu et plus elle est déviée quand elle y entre ou en sort avec un certain angle.
Ok, je vois. Et ce modèle des rayons, il explique autre chose?
Oui, un phénomène important, la réflexion totale interne.
La réflexion totale interne, qu'est-ce que c'est?
Imagine la lumière qui essaie de passer d'un milieu, disons dense comme l'eau, vers un milieu moins dense comme l'air. Si l'angle d'incidence est assez grand,
oui.
La lumière ne sort pas. Elle est entièrement réfléchie, comme si elle rebondissait sur la surface de séparation. Elle reste piégée dans le premier milieu. Il y a un angle limite, on l'appelle l'angle critique.
Ah, d'accord. Et ça sert à quoi?
C'est fondamental pour les fibres optiques, par exemple. La lumière reste guidée à l'intérieur de la fibre grâce à ça. C'est comme ça que l'information voyage si vite et si loin.
Ah ouais, quand même. Super intéressant. Mais bon... Est-ce que ces simples lignes droites, ces rayons, ça suffit pour tout comprendre de la lumière? J'ai comme l'impression qu'il y a des trucs plus bizarres.
Tu as tout à fait raison. Ce modèle des rayons, il est utile, mais il a ses limites. Il ne peut pas tout expliquer.
Alors, quoi d'autre?
Pour aller plus loin, il faut changer de perspective. Il faut imaginer la lumière non plus comme des rayons, mais comme une onde. Un peu comme les vagues à la surface de l'eau.
Une onde? Comme le son?
Un peu, oui, dans l'idée de propagation. C'est le modèle ondulatoire. Huygens, notamment, a beaucoup travaillé là-dessus avec son principe. Et ce modèle est absolument nécessaire pour comprendre un phénomène clé, l'interférence.
L'interférence? Ah, ça me dit quelque chose. Les fontes de Young, c'est ça? L'expérience où la lumière passe par deux petits trous et ça fait des motifs lumineux et sombres?
Exactement. C'est l'expérience emblématique. On prend de la lumière, on la fait passer par deux fentes très fines, très proches, et derrière, sur un écran, on ne voit pas juste deux bandes de lumière.
Non, qu'est-ce qu'on voit alors?
On voit une série de bandes, des franges, alternativement brillantes et sombres. C'est la figure d'interférence.
Attends. Des franges sombres. Ça veut dire que lumière plus lumière, ça peut donner du noir, de l'absence de lumière.
C'est précisément ça. C'est ça qui est contre-intuitif mais crucial. Là où les crêtes des ondes issues des deux fentes arrivent en même temps, elles s'ajoutent. C'est une frange brillante. On dit interférence constructive.
D'accord.
Mais là où la crête d'une onde rencontre le creux de l'autre, elle s'annule. Et hop, frange sombre, interférence destructive. Lumière plus lumière égale obscurité.
Incroyable! C'est une preuve directe que c'est une onde, alors?
Une preuve éclatante, oui. Et il y a aussi la diffraction.
La diffraction? Qu'est-ce que c'est, ça, encore?
C'est aussi un comportement typique des ondes. C'est leur tendance à... comment dire, à s'étaler, à contourner les obstacles ou à s'ouvrir après être passé par une ouverture étroite.
Genre une vague qui passe l'entrée d'un port et qui s'arrondit derrière.
C'est une bonne image, oui. La lumière fait pareil. Si elle passe par un trou très fin, elle ne continue pas juste en ligne droite derrière. Elle s'étale. Et ça aussi, ça crée des figures avec des zones claires et sombres.
D'accord. Donc onde, interférence, diffraction, c'est bon. La lumière est une onde. Affaire classée.
Et non, pas si vite. Ce serait trop simple.
Encore?
Oui. Parce qu'il y a d'autres phénomènes, comme l'effet photoélectrique.
L'effet photoélectrique?
C'est quand la lumière frappe un métal et arrive à en éjecter des électrons. Et ça, le modèle ondulatoire tout seul, il a beaucoup de mal à l'expliquer correctement.
Et alors, comment on l'explique pour ça ?
Pour ça, il faut revenir à une idée plus corpusculaire. Il faut imaginer la lumière comme étant faite de petits paquets d'énergie. Des particules, en quelque sorte.
Des particules de lumière ?
Exactement. On les appelle des photons. C'est le modèle corpusculaire relancé par Einstein au début du XXe siècle.
Alors là, je suis perdu. C'est une onde ou c'est des particules ? Faut choisir, non ?
Eh bien non. C'est ça qui est complètement dingue et fascinant. La lumière et les deux à la fois.
Les deux ? En même temps ?
Oui. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Selon l'expérience qu'on fait, selon comment on interagit avec elle, la lumière va montrer soit son visage onde, soit son visage particule.
Mais comment c'est possible ?
Ah, ça c'est une des grandes révolutions de la physique moderne, la mécanique quantique. Ça nous dit que la réalité à cette échelle est bien plus étrange que notre intuition ne le laisse penser. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est les deux potentiellement.
D'accord. C'est vertigineux. Comme je disais au début. Bon, revenons à un truc plus visible, peut-être. Les couleurs. Comment l'aspect ondulatoire explique les couleurs ?
Très bonne question. La lumière blanche, celle du soleil par exemple, n'est pas pure. En fait, c'est un mélange.
Un mélange de quoi ?
De toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On dit que c'est un mélange de différentes composantes monochromatiques, chaque couleur correspondant à une longueur d'onde spécifique.
Comme dans un arc-en-ciel ? Ou avec un prisme ?
Exactement. Un prisme, ça marche parce que le vert dévie légèrement différemment les différentes couleurs. Le rouge est moins dévié que le bleu, par exemple. L'indice de réfraction dépend un petit peu de la longueur d'onde. C'est ça, la dispersion, ça sépare les couleurs.
Ah, d'accord. Et la couleur des objets, alors ? Pourquoi mon t-shirt est bleu, par exemple ?
Ça, c'est lié à comment la matière du t-shirt interagit avec la lumière blanche qui l'éclaire. Les pigments dans le tissu vont absorber certaines longueurs d'onde.
Ils mangent certaines couleurs.
C'est l'idée, oui. Ils absorbent le rouge, le vert, le jaune, mais ils ne vont pas bien absorber le bleu. Au contraire, ils vont le réfléchir, ou plutôt le diffuser, dans toutes les directions. Et c'est cette lumière bleue diffusée qui arrive à nos yeux.
Donc, on voit la couleur qui n'est pas absorbée. C'est l'absorption sélective et la diffusion sélective.
Tout à fait. Absorption de certaines couleurs, diffusion des autres.
Et pour le ciel, bleu ?
C'est pareil. L'air absorbe le reste.
Pas tout à fait par absorption. Là, c'est surtout une question de diffusion, mais un type particulier. Les toutes petites molécules dans l'air, l'azote, l'oxygène, elles diffusent la lumière du soleil. Mais elles sont beaucoup, beaucoup plus efficaces pour diffuser les courtes longueurs d'onde.
Les courtes longueurs d'onde, c'est le bleu et le violet, c'est ça ? Exactement. Le bleu et le violet sont bien mieux diffusés, éparpillés dans tout le ciel, que le rouge ou l'orange. C'est la diffusion de Rayleigh. C'est pour ça que le ciel nous apparaît bleu dans la journée. Ce qui est fascinant ici, c'est comment ces différents modèles, les rayons, les ondes, les particules, s'assemblent en fait. Ils ne s'opposent pas vraiment. Ils offrent chacun une perspective, une clé pour comprendre différents aspects d'un phénomène unique et incroyablement riche, la lumière.
C'est une belle façon de résumer, oui. Une régéridée complexe avec plusieurs facettes. Et ça laisse songeur quand même. Si la lumière a cette nature ondulatoire, avec l'interférence, la diffraction, est-ce que ça ne pose pas des limites fondamentales à ce qu'on peut voir ? Par exemple, la résolution de nos microscopes ou de nos télescopes. Et à l'inverse, comment on arrive à exploiter ces propriétés un peu étranges dans des technologies comme, je sais pas moi, les hologrammes ou les lecteurs de disques optiques ?
Vaste question. De quoi réfléchir après notre discussion ?